Vous êtes sur RTL. Pro sur RTL.
Merci Christelle, et c'est intéressant ce que vous avez dit, puisque vous avez dit que Emmanuel Macron déposerait une gerbe aux Invalides. Et en fait, c'est plus compliqué que cela, parce que quand on est président de la République, on pense à tout. Et c'est pas lui qui va la déposer précisément. C'est le Benjamin des Saint-Cyriens. Et vous savez pourquoi ? C'est parce que le président de la République ne veut pas se prosterner devant l'empereur. C'est ce qu'on dit à l'Élysée.
Donc, c'est fascinant, j'adore.
Mais oui, et évidemment, parce que tout est symbolique. Et effectivement, un président de la République qui pose une gerbe, qui amène une gerbe et qui se met dans une situation, entre guillemets, de se prosterner, eh bien, sans doute, Emmanuel Macron ne souhaitait pas être dans cette position. Et c'est donc le Benjamin des Saint-Cyriens qui déposera en son nom cette gerbe. Le président honore par sa présence Napoléon, mais ne va pas jusqu'à déposer cette gerbe. Merci beaucoup, Christelle. Notre question du jour, c'est le cannabis. On est avec Christophe, qui est policier, qui nous a fait un teasing. Et je crois comprendre que ça vous pose un problème, la légalisation.
Ça me pose un problème moral, parce que la lutte contre les stupéfiants, c'est la majeure partie de mon travail. Je vais être très franc avec vous, c'est une thématique sur laquelle je travaille énormément. Donc au-delà de la lutte contre les stupéfiants, il y a aussi de la lutte contre toute cette économie souterraine, tous les problèmes de sécurité que ça amène dans les nombreux quartiers dans lesquels qui sont gangrénés par ce fléau que sont les stupéfiants. Et si on légalise, ça veut dire qu'on va couper une source de revenus pour tous les caïds qui gèrent des quartiers et la lutte contre et la vente de stupéfiants. Donc cette source de revenus, il faudra la remplacer par autre chose.
Je sais pas si c'est un bon argument que vous donnez là, parce que ça c'est pas très moral pour le coup.
Non, c'est pas moral.
Parce que vous êtes en train de me dire, au moins, ils ont de l'argent, les stupéfiants, trafiquants, et ils nous laissent tranquilles.
Non, c'est pas ça ce que je veux dire du tout. Là, j'ai peut-être pas bien exprimé, mais c'est simplement que les revenus qui sont générés sont énormes. Donc, on fait vivre des quartiers entiers uniquement avec le trafic de stupéfiants. Donc, si on met fin à ça, cette forme de délinquance va se déplacer sur autre chose, de toute façon. Donc, voilà. Moi, dire on légalise, moralement, ça me pose un souci. Parce que l'État vende un produit qui est initialement interdit, ça me pose quand même un problème quelque part, un souci. Et je ne me vois pas...
Il ne le serait plus interdit. Non, mais est-ce que... Tout à l'heure, je disais la prohibition, c'est un échec. Donc, est-ce que c'est vrai ce que je dis ? C'est-à-dire que ça n'a pas baissé le nombre de consommateurs. Vous, vous dites que c'est votre métier. Mais est-ce que vous êtes efficace ?
Alors, je vais être franc avec vous. Moi, j'ai plus d'une trentaine d'années de police. Depuis 30 ans, on ne fait que de la répression sur les stupéfiants. Pour l'instant, ça ne porte pas ses fruits, puisque de toute façon, le nombre de consommateurs ne diminue pas. Il faut être très franc. On va pas se mentir. Après, peut-être que les sanctions qui initialement sont prévues, qui sont appliquées, ne sont pas forcément dissuasives. On a beaucoup de rappels à la loi. C'est-à-dire que, effectivement, ça ne dissuade pas. Vous avez un rappel à la loi, c'est pas ce qui est très dissuasif. Mais pour l'instant, la manière de procéder, elle ne porte pas ses fruits. Il faut être franc.
La légalisation, vous êtes contre, et que la prohibition, c'est pas efficace, qu'est-ce qui reste ?
Mais il reste pas grand-chose. Le problème, c'est que moi, policier, j'obéis aux instructions qui me sont données par le politique. Donc voilà, là, en ce moment, le fer de lance actuellement, c'est la lutte contre les stupéfiants. J'ai pas de solution directe. Moi, moralement, ça me pose un souci en tant que citoyen de dire oui, on légalise le stupéfiant. Ça me pose un souci en tant que citoyen. Mais je sais pas si on a une solution. Après, on l'autorise pour les majeurs, pas pour les mineurs. Donc les mineurs qui sont quand même extrêmement nombreux en France à consommer des produits stupéfiants chercheront toujours à s'en procurer. Donc on aura toujours des sources de revente de stupéfiants de manière illégale. Ça ne mettra pas fin, ça, de toute façon. Il faut pas non plus se leurrer à ce niveau-là. On aura toujours des ventes, des gens qui ne peuvent pas acheter, qui sont mineurs, se dirigeront toujours sur cette revente illicite.
Bon, bah écoutez, merci Christophe pour ce premier témoignage. Véronique est là, et peut-être Véronique va-t-elle patienter quelques secondes après la pause. Je salue Greg Caranoni.
Bonjour à tous.
Généralement, quand on parle du cannabis, vous mettez « Dieu est un fumeur de Havane », mais pourquoi pas ? À tout à l'heure.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Je ne vous demanderai pas si vous avez déjà fumé un joint ou pas.
Eh bien même pas.
Ben moi
non,
plus.
Mais vérité,
on est deux,
la,
tous les deux.
La vérité, hein.
On doit être d'un autre temps.
D'un autre monde.
Mais non, peut-être. Alors je sais, c'est indiscret comme question, donc je ne la poserai pas à Greg Caradoni.
Ah, par contre, vous me la posez.
Ben je vous la pose à vous.
C'est gentil.
Ben parce que vous êtes près de moi.
C'est la question du jour et le débat qui vous anime au 3210. Vous l'avez dit, faut-il légaliser le cannabis? Est-ce la meilleure solution pour lutter contre le trafic? Le rapport d'une mission parlementaire pour une légalisation régulée est publié aujourd'hui. Caroline Janvier, députée LREM du Loiret, était l'invitée de RTL Midi à Christelle Robière.
Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation paradoxale puisqu'on a la première place en termes de consommation de cannabis en Europe et notamment chez les jeunes, avec une politique parmi les plus répressives. Donc on voit bien que ce qu'on fait depuis 50 ans ne fonctionne pas et a même presque les résultats inverses.
Sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Elisabeth ne souhaite pas la légalisation. Les trafiquants, développons le marché des drogues dures. Regardez déjà le résultat pour toute une génération. Pour d'hommes, il faut se donner plus de moyens dans la lutte contre le cannabis, notamment par la prévention. Là, on est en train de baisser les bras, c'est tout, sauf anodin. Des avis que ne partage pas Thierry. Il faut légaliser pour déstabiliser le marché. La prison n'effraie pas en plus les dealers. Et pour Tristan, si au passage l'État pourrait faire rentrer de l'argent dans les caisses, alors allons-y.
Eh bien, merci Laurent. Nous sommes avec Véronique. Bonjour Véronique, vous habitez Le Mans.
Bonjour Pascal.
Et
oui,
merci d'être avec nous. La question.
Je vous en prie. Oui.
Ben,
il faut légaliser, bien sûr.
Pourquoi?
Ben, je viens d'entendre votre auditeur précédent. Ça fait 30 ans qu'ils luttent, sinon aucun résultat. Et on est les premiers consommateurs. Donc il y a quand même quelque chose visiblement qui ne colle pas. Donc toute cette énergie dépensée à lutter contre, effectivement, le cannabis, tous ceux qui ont un peu de cannabis sur eux, etc., qu'on retrouve dans les prisons, qui occupent le personnel, etc., pendant ce temps-là, vous avez vu dernièrement, il y a une semaine, il y a eu 3 personnes qui ont été libérées parce qu'il n'y avait personne pour les emmener, et ce sont des gars qui ont fait violence conjugale. Donc moi, je veux bien un gars qui fume du cannabis qu'on a dans sa poche, on le met en prison, mais on n'a pas assez de personnel pour emmener un mec qui a tapé sur sa femme, et le gars, il se retrouve en liberté. Il y a quand même un problème. Après, on dit que le cannabis, ça entraîne des violences. C'est faux. Ce sont ceux qui, effectivement, passent au-delà du cannabis et vont sur la coke, etc., qui sont violents. Il n'y a pas de fumeur de cannabis violent. On dit que ça crée des dépendances. Bah, est-ce que ça en crée plus que l'alcool, que le tabac, que les anxiolytiques et tous ces saloperies que les gens consomment?
Quoi, j'ai quand même, et l'actualité récente, le tueur de Sarah Halimi était sous l'emprise de cannabis, si
oui,
vous me permettez.
Oui, et certainement consommé d'autres choses. Je ne connais pas de fumeur de cannabis violent. Ça les fait planer. Est-ce que vous êtes violent quand vous planez? Non. Après, c'est effectivement... Alors, il y a aussi le problème qu'aujourd'hui, on vend du cannabis qui est de très mauvaise qualité, parce que c'est un trafic, et que les trafiquants, pour faire plus d'argent, mettent des tas de saloperies dedans, effectivement, qui du coup...
Mais ça, c'est un argument intéressant, c'est un argument que j'ai développé tout à l'heure, et vous avez raison. Ce qui est très ennuyeux, je vais vous dire, c'est que quand on approche de très près ce dossier, et notamment avec les professionnels, qui connaissent quand même mieux que nous, hein, d'une certaine manière, ils sont plutôt enclins à penser qu'il faille légaliser le cannabis. C'est ça qui me frappe. Moi, j'ai appelé 2 ou 3 médecins qui s'occupent de cela. Et c'est un peu choquant, pour tout vous dire. Vous voyez ce que
mais
je veux dire?
C'est
un peu choquant.
Pourquoi?
C'est un peu parce dérangeant, en tout cas.
Mais
c'est
Pascal,
dérangeant.
C'est choquant parce qu'on joue les jeunes vierges effarouchées par rapport au cannabis, parce que ça fait des années qu'on entend que le cannabis, c'est le démon, qu'il ne faut surtout pas en consommer.
Alors, déjà, c'est le démon, hein, Oui,
voilà.
C'est le démon,
déjà,
disons-le. Ceux qui en consomment beaucoup, si, c'est très ennuyeux.
Voilà,
c'est une
addiction. Est-ce que vous ne croyez pas que ceux qui consomment de l'alcool, c'est le démon?
L'un n'exclut pas l'autre.
Ah ben non, mais je suis d'accord avec vous, mais alors dans ces cas-là, qu'on arrête de mettre l'alcool en vente libre, et vous allez voir que tous ceux qui sont nés dans les années 40 à 70 et qui consomment 1 litre d'alcool par jour et qui tapent sur leur bonne femme, ils estiment qu'ils sont pas alcooliques. Ben oui, ils sont alcooliques, mais ceux-là, non, ils vont vous dire « non, moi je suis pas alcoolique, je suis jamais sous ». Et pareil, quand les jeunes, quand vous leur dites qu'il y a un produit qu'il faut pas consommer, ils vont se précipiter dessus dès qu'ils vont commencer à arriver à l'âge de 15-16 ans parce que on va dans la transgression. Si vous leur vendez que le cannabis, c'est comme les haricots verts, c'est très bon et qu'il faut en consommer, vous allez voir que dans quelques temps, ils vont plus vouloir en consommer. Parce qu'à partir du moment où on leur dit que c'est bon, les jeunes, ils consomment pas.
Oui,
ils vont vers ce qui est interdit.
C'est des drôles d'arguments, mais bon, je suis pas sûr, Véronique.
Mais c'est des vrais arguments, je peux vous assurer.
Bah, ça serait simple, à ce moment-là, on leur dirait que c'est des haricots verts, et puis ils arrêteraient.
À partir du moment où c'est transgressif, ça les attire.
Vous pensez?
Bien sûr, les jeunes à partir de 14-15 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de picoler, ils essayent de fumer, parce qu'on leur dit qu'il ne faut pas.
Oui.
Et on leur dit que le sexe, faut attendre qu'il soit grand, etc. Ils se collent sur les films porno.
Je pense que si on leur dit de fumer du cannabis, ils vont en fumer. Hein. J'en ai peur.
Mais bon. Non, mais ils en consommeront. À partir du moment où... Alors, ça évitera qu'il y ait des saloperies dedans. Mmh. Ça évitera qu'on ait effectivement, comme disait tout à l'heure le policier, une économie parallèle. Parce que je suis désolée, mais effectivement, ça crée une économie parallèle. Et là, on en arrive quand même au stade où on se dit, si on légalise le cannabis, comment on va faire pour compenser ses revenus? Non, mais c'est aberrant.
On va être avec Jérémy, Véronique. Et restez avec nous, mais Jérémy, c'est un consommateur. Ça fait 30 ans qu'il fume du cannabis. Donc,
voilà.
On va voir si j'ose dire.
Il est violent, il tape pas sur sa femme.
On va lui demander. Bonjour, Jérémy.
Bonjour.
On va voir déjà dans quel état vous êtes. 30 ans de joint tous les jours?
Tous les jours.
Mais
enfin, tous les jours. Non, j'ai arrêté quand ma fille est née.
Ah bah alors, c'est voilà. Pas tous les jours.
Je me suis retrouvé avec un petit bébé dans les bras. J'ai arrêté de fumer pendant 3 ans.
Ah, je croyais que vous aviez arrêté juste le jour de la naissance.
Ah non, bon. J'ai arrêté 3 ans, le temps d'élever ma fille tranquillement, les couches et les biberons.
Et puis vous avez repris.
Et après...
quand vous avez arrêté, ça a été très rude pour vous d'arrêter?
Pas du tout.
Donc il n'y avait pas d'addiction?
Alors, aucune. Bah, en fait, l'addiction du cannabis, il faut savoir qu'elle est, dans la tête, elle n'est pas physique, contrairement à l'alcool et aux autres drogues. Donc à partir du moment où vous avez une responsabilité, que vous avez un petit bébé qui fait 4 kilos dans les bras, le cerveau, automatiquement, il vous fait, il n'y a pas de dépendance, il n'y a rien du tout. Donc je rebondis exactement sur ce que c'était Véronique juste avant, je crois.
Oui. Ah bah oui, vous voyez, vous savez pas son prénom, peut-être que c'est la mémoire qui agit.
D'accord avec elle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus d'interdit, les gamins seront moins attirés. Tout simplement.
Bon, Jérémy, vous fumez combien, j'allais dire, de joints dans une journée?
Alors, ça dépend de ce qu'on a.
Alors, on va prendre hier, la journée d'hier. Vous avez pris combien de joints?
Trois.
À quelle heure?
Le soir. Uniquement le soir, parce que je travaille énormément.
Qu'est-ce que vous faites, si ce n'est pas indiscret?
Je travaille dans les télécoms.
D'accord. Donc, vous rentrez chez vous le soir?
Je rentre chez moi le soir, je fais ce que j'ai à faire, mon ménage, mes courses, patati patata.
Vous êtes, pardonnez-moi de poser des questions qui sont un peu indiscrètes, mais vous vivez tout seul? Vous vivez tout seul ou vous êtes en couple ou en famille?
Bon, alors ça, c'est une question qui est un petit peu compliquée. Je vis tout seul, mais je suis en couple. Voilà.
D'accord, mais quand vous fumez, vous êtes tout seul ou vous êtes avec votre compagne?
Avec ma compagne ou avec des amis. Ou tout
mais,
seul.
Mais hier soir, par exemple, vous étiez tout seul pour les 3 juin ou avec votre compagne?
Ah, il était tout seul.
Oui, parce que évidemment, la compagne. Elle fume aussi, votre compagne?
Ouais.
Oui. Et vous fumez plutôt ensemble?
Quand on est ensemble, on fume ensemble. Quand je suis tout seul, je fume tout seul.
Oui, d'accord. Donc, mais il n'y a pas de problème, effectivement, parce que déjà, il y a une odeur qui est un peu forte. Si votre compagne ne fumait pas, elle pourrait être incommodée par cela. Donc, je veux dire, en combien de temps vous les fumez, ces 3 joints?
Oh, faut savoir que je suis un oiseau de nuit. Donc. Ça commence à 18h jusqu'à 1h du matin, quoi.
D'accord. Et c'est un budget important, quand même?
Oui et non.
C'est-à-dire que ça coûte combien un joint? Alors, j'ai aucune idée, pour tout vous dire. Les 3 joints d'hier soir, par exemple, vous avez fumé pour combien de cannabis?
Bon, faut savoir que j'habite dans les Hauts-de-France, où c'est pas très très cher, donc ça m'a coûté moins de 5 euros.
Moins de 5 euros les 3 joints?
Ouais, bon. Beaucoup moins cher qu'un pack de bière.
D'accord. Et comment vous le procurez? Parce que c'est interdit, c'est illégal.
Vous savez, quand ça fait 30 ans qu'on fume, on a maintenant ce qu'on appelle des Uberweed.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire on envoie un SMS, puis il y en a un scooter qui passe à la maison libre.
Bon. Votre fille, elle a quel âge aujourd'hui?
13 ans.
Et elle fume?
Non.
Et si elle fumait, vous diriez quoi?
Rien, mais elle ne fumera pas. Je pense pas, en fait.
C'est pas
simple raison qu'il est arrivé un moment où je ne me cache pas de ma fille.
Mmh.
Ma fille sait que je fume.
Et qu'est-ce qu'elle vous dit?
Elle me dit, moi, je fumerai pas. Parce que, tout simplement, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas d'interdit.
Mmh. Voilà.
Mais, comment dirais-je, elle vous reproche que vous fumiez?
Pas du tout.
Bon, est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, que vous êtes moins concentré, que votre mémoire est moins forte, que, en fait, sur le plan, j'ai envie de dire, intellectuel, ça peut vous abîmer?
Pas du tout, non.
Hmm.
Au contraire.
Ça vous excite intellectuellement?
Ouais, moi j'ai une passion qui est fabriquer des meubles en bois et patati et patata, enfin c'est mon délire. Hein. Mmh. Personnellement, je suis beaucoup plus créatif quand j'ai fumé. Mmh. Ça serait un fait.
Non mais c'est, votre témoignage est formidable d'ailleurs, c'est passionnant. Mais alors, à côté de... Est-ce que vous diriez que c'est quand même une addiction?
Non, c'est pas une addiction, non. c'est un mode de vie.
Mais vous pourriez pas, vous ne pourriez pas vous en passer?
Si, je pourrais.
Vous pourriez. Et le matin, par exemple, il est 13h...
Honnêtement, je suis beaucoup plus zen quand j'ai fumé que quand j'ai pas fumé.
Mais ça se traduit comment de pas être zen?
Je suis quelqu'un qui est assez nerveux et comme j'ai fumé...
Donc là, ça vous calme.
Voilà.
Ça vous met dans un état dans lequel vous aimez bien être, ouais. Et c'est pour ça que vous aimez retrouver cet état.
J'ai 46 ans, ça fait 30 ans que je fume.
Oui.
Donc moi, je gère mon produit, quoi. Je sais le doser, je sais...
J'imagine. Alors là, il est 13h19, par exemple, vous n'avez pas fumé encore.
Ah bah non.
Là, vous ne fumez jamais avant 18h.
Non, là, je suis garé, il me reste encore un client à réparer, quoi.
Parce que vous allez chez les gens pour... réparer le client. Bon. Mais le matin, quand vous vous levez après 3 juin comme ça, par exemple, hier soir, vous êtes couché à 1h ou 2h du matin, si j'ai bien compris.
Ah, mais moi, je me lève le matin en pleine forme. Hein. Par contre, si j'avais bu de l'alcool, ce ne serait pas la même.
Et vous buvez de l'alcool également, parallèlement?
De la bière de temps à autre.
Mais globalement, très peu.
Ouais.
Donc, vous buvez, par exemple, hier soir, vous n'avez pas bu de vin, vous n'avez pas bu de whisky.
J'ai bu une bonne bière belge, comme tous les soirs. Hein,
une bonne bière belge, quand même, tous les soirs. Parce que parfois, on dit que l'alcool amène le cigare ou la fumée.
Non,
a envie de... Bon, pardonnez-moi, il y a un côté un peu... c'est pas un interrogatoire que vous subissez.
Non, mais moi, je trouve ça passionnant,
en fait, d'avoir tous ces éléments-là pour ceux qui nous écoutent.
Non, mais c'est intéressant parce que je vous écoute tous les jours, donc j'aime bien vos débats. Mmh. Maintenant, je voudrais rebondir sur un truc, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire quand même.
Dernière chose simplement, est-ce que vous diriez à un gosse de 15 ans de ne pas commencer le cannabis?
Non. Par contre, moi, ce que je vais vous dire, juste pour terminer vite fait, vu que vous êtes un petit peu pressé...
Après la pub, parce que c'est vraiment intéressant, Jérémy, ce que vous nous dites. Moi, je trouve ça passionnant. En plus, vous avez beaucoup de...
Dernier argument qui est très important.
Non, mais c'est intéressant parce que vous êtes sincère, authentique, et vous dites les choses avec beaucoup de... Comment dire, beaucoup d'intelligence, finalement, sur votre rapport au cannabis. Donc, ça nous passionne. À tout de suite.
Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Bonjour, c'est Eric Jean-Jean.
Bonus track sur RTL.
On se retrouve tout à l'heure à partir de 21h sur RTL pour Bonus track avec en début d'émission un focus sur les enfants terribles de la Britpop, les frères Gallagher et leur groupe Oasis. Le journal de la musique avec Stephen Bellery. Puis à l'occasion de la sortie de son autobiographie, on passera toute la deuxième partie de l'émission avec Yves Duteil. Allez, à tout à l'heure, 21h sur RTL, Bonus track.
Longue vie aux voitures à vivre.
Souvent, les gens me disent « Oh, José, mais qu'est-ce que vous nous avez fait rire tous les soirs ?» Mais bon, ça, c'était avant. Mais d'où avant ? Je suis toujours en pleine forme, moi. Tout fonctionne bien, regardez-moi cette patate. Bah oui, je m'entretiens.
C'est important, l'entretien. Alors, pour votre véhicule de plus de 3 ans, chez Renault Care Service, bénéficiez de la révision éco à partir de 99€ avec 38 points de contrôle, vidange et remplacement du filtre à huile. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Nos ateliers restent ouverts sur rendez-vous. Offre réservée aux particuliers, conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr. Leclerc.
Ah, les ados, je te jure. Avant, il fallait se battre pour qu'ils prennent une douche et maintenant, ils passent leur vie dans la salle de bain.
Bah, au moins, ils sont propres.
C'est sûr, mais bonjour la consommation de gel douche.
Oh, attends, mais ça, c'est pas un problème. Regarde, du 4 au 15 mai, pendant l'opération beauté, le lot de 4 bouteilles de 250 ml de gel douche Tahiti avec 50% de réduction immédiate est à 2,59€.
Impec, passe-moi 3 lots.
Carrément ?
Minimum.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
On a prolongé la conversation avec Jérémy parce que ce qu'il nous dit est passionnant. Bonjour Jérémy. Bonjour, pas bonjour.
Ça va Pascal?
Ça va, j'ai pas fumé pourtant. Non, vous voyez, Jérémy, donc vous vouliez donner un dernier argument pro-cannabis, si j'ai bien compris.
Je vais vous expliquer un truc. Moi, quand j'ai commencé à fumer, j'étais gamin à 16 ans. Bon, c'était plus compliqué que maintenant pour se procurer du cannabis. Donc on allait dans les cités chercher du cannabis. Et puis un jour, on m'a proposé autre chose.
Autre voilà. Chose de plus dur, hein, c'est ce que j'entends. Ou de la drogue, ou de la cocaïne, ou de l'héroïne, que sais-je.
C'est ça, héroïne.
Et vous avez dit non.
J'ai essayé.
Ah, vous avez essayé l'héroïne?
Mais bon, j'ai arrêté tout de suite. Hein. C'était pas. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que s'il y avait des points de vente légaux vendus par l'État, les gamins auraient peut-être moins de relations avec, avec les drogues dures. Vous comprenez ce que je veux dire?
Pas trop.
Parce que le fait... Il y a des dealers, on appelle ça des dealers, qui sont vicieux. Ils vont vous faire fumer du cannabis et après, ils vont vous proposer autre chose. Si on court-circuite tout ça, pour moi, c'est diminution de la drogue dure, tout simplement.
Ben merci Jérémy de ce témoignage. Vous pouvez peut-être rester avec nous, ou en tout cas, ça serait bien un jour qu'on vous rappelle, parce que votre témoignage est édifiant. Alain est avec nous, il est chauffeur routier, et ça serait bien également d'avoir, pourquoi pas, une femme ou qui consomme du cannabis et qu'elle nous dise les effets que ça produit sur elle. Bonjour Alain.
Bonjour Pascal, bonjour à vos auditeurs.
Et merci d'être avec nous. Vous avez écouté ce que disait Jérémy, vous êtes reconnu dans ce témoignage?
Ah ben complètement, et également je cautionne tout ce qu'a dit l'auditrice précédente, c'est-à-dire Véronique. Je cautionne également ce qu'a dit le policier. Je suis âgé de 55 ans, vous l'avez dit, je suis conducteur routier, je suis père de famille, j'ai 9 petits-enfants. J'ai fumé depuis l'âge de 15 ans, et évidemment, j'ai cessé depuis bien longtemps de consommer ce produit. Vous vous doutez bien que ce n'est pas compatible avec la conduite de véhicules lourds, même d'un véhicule tout court. Je suis pour la légalisation du cannabis. Regardez en Hollande, où je me suis rendu tellement de fois dans ma vie, il n'y a pas, vous voyez, des chefs d'entreprise qui s'arrêtent dans les coffee shops le matin pour prendre leur petit sachet d'herbe. Ça n'empêche pas les gens d'évoluer. Aujourd'hui, je suis conducteur routier, je vous l'ai dit, mais j'ai d'autres fonctions. Je suis référent social dans l'entreprise qui m'emploie dans Lyon.
Mais vous ne fumez plus aujourd'hui, vous avez arrêté, c'est ce que je comprends.
Je ne fume absolument plus parce qu'il y a un moment où mon esprit, et là je rejoins votre auditeur précédent, il y a un moment où l'esprit est absorbé par autre chose et il y a dans la vie des priorités, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, et il m'est apparu que j'avais des responsabilités. Conduire un 44 tonnes, c'est pas rien. Avec un poids lourd, c'est toujours très grave, un accident. J'ai un exemple aussi à donner à mes petits-enfants. Je ne ferai pas l'apologie de la consommation du cannabis. Mais tout comme l'auditeur précédent, je ne ferai pas de remarque à un jeune qui a bien... Je précise qu'il a la tête sur les épaules. Si je vois un môme de 12-13 ans avec un joint à la main, je vais le regarder et si l'occasion m'en est donnée, je vais lui faire une remarque qui ne sera pas désobligeante, mais je le mettrai en garde parce que c'est un peu tôt à mon sens. C'est même beaucoup trop tôt. Mais je considère qu'il y a un moment, il faut savoir où sont les impératifs. Il faut savoir, il faut réfléchir. Et moi, le cannabis ne m'a jamais permis de ne pas réfléchir, ne m'a jamais empêché de réfléchir.
Vous avez fumé combien de temps ?
Oh, j'ai fumé, j'ai arrêté il y a... Écoutez, j'ai pris le volant il y a 15 ans, il y a 17 ans, pardon, et j'ai arrêté au moment où j'ai passé mes permis de conduire poids lourd, c'est-à-dire un an auparavant. J'ai tellement été passionné par le fait, le jour où je me suis retrouvé derrière le volant d'un poids lourd avec le formateur à côté, ma vie a été bouleversée.
Donc à ce moment-là, vous avez arrêté. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fumé ce qu'on appelle un joint. On dit parfois aussi fumer un pet.
Un pet, oui.
Donc ils ne savent pas d'abord combien de temps ça dure.
C'est-à-dire ?
De le fumer.
L'effet ?
Non. Comment dire, vous le fumez pendant combien de temps ? C'est une demi-heure ? C'est une heure ? Ça dure combien de temps ?
Ah oui, par exemple, je vais reculer en arrière, j'ai de la mémoire.
Et donc, oui.
Devant un bon film, devant une bonne série, je me roulais un cône et il était dans le cendrier et je tirais une petite taf ou deux sur mon cône. Mais
d'accord.
Si j'avais pas fumé un pétard, j'aurais peut-être fumé 10 cigarettes.
D'accord, mais voilà. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça dure donc une heure peut-être.
Oui, pour le fumer, mais pour l'effet dure un petit peu.
Et l'effet dure combien de temps précisément ?
Ben l'effet, moi je ne m'attendais pas à un effet. L'effet, il arrive tout seul. C'est un effet d'apaisement. C'est un effet. Il y a moins de stress, il y a moins après une journée un petit peu compliquée. Dans ma vie, j'ai eu des soucis, j'ai eu un cancer colorectal à l'âge de 26 ans, j'ai perdu mon frère. Ça m'a aidé. Il y avait
d'accord.
Ça où il y avait l'alcool. Et bien l'alcool, moi, ça ne m'a pas.
Et l'autre chose que je voulais vous poser comme question, on n'avale pas la fumée.
Ah si, bien sûr.
Ah, vous avalez ?
Vous fumez, monsieur.
Quand on fume le cigare, on n'avale pas la fumée. Si vous mettez à avaler la fumée d'un cigare, je peux dire que vous allez mal, ça a mal se passer.
Fumé de cigare, mais quand vous prenez une cigarette et que vous voulez,
on avale effectivement. Ah mais moi je pensais. Alors vous voyez, ma question était celle d'un béotien. Je pensais que parce que il se trouve que je fume le cigare pour tout vous dire et que je pensais que le cigare était comme le joint. On n'avalait pas la fumée du joint. Donc là, on l'avale. Ah oui, c'est plus nocif alors.
Bah c'est pas plus nocif.
C'est plus nocif quand vous avalez que quand vous n'avalez pas.
Oui, mais il n'y a aucun intérêt de fumer un pétard si vous n'avalez pas la fumée, j'ai envie de vous dire.
Souvent, les gens disent ça pour le cigare. Il y a quand même un intérêt à fumer et à ne pas avaler la...
Ah, mais parce que le produit n'est pas le même du tout. La feuille de cigare est beaucoup plus fort, intense. Il y a des cigares de toutes catégories. Je n'en fume pas, mais je sais que ça existe. Il y a des amateurs de cigares, mais comme le bon vin, il y a des amateurs de bon vin. Vous fumez un joint, vous avalez la fumée, bien sûr.
Bon. Alors, je ne voudrais pas que notre émission soit l'apologie du cannabis, évidemment, on est prudent. Le CSA nous écoute sans doute, donc il faut être très prudent. Mais c'est intéressant, forcément, si on parle du cannabis, on a des gens qui ont fumé ou qui fument du cannabis. Je remercie Jérémy, je remercie vraiment Alain, je remercie Véronique, je remercie Christophe, et on va continuer parce que Erwan et Jean sont là. Et on n'a même pas écouté une petite chanson, monsieur Caranoni.
Ben non, je peux mettre un peu de Bob Marley pour être cliché.
Ah ben.
Je sais que vous aimez les clichés.
Ah bah c'est gentil.
C'est pas mauvais d'aimer les clichés, hein. J'adore les clichés.
Alors, il y a l'ami Éric Brunet qu'on entendra dimanche, bien sûr, sur l'antenne de RTL.
Et qui... même ce soir, hein, dans le monde tel qu'il est.
Et dans le monde. Alors, il m'envoie, et il a pas tort d'ailleurs, on peut l'appeler d'ailleurs, Éric Brunet, pourquoi pas. Il m'envoie un petit message, il me dit t'es pas très bon sur la question du pétard. Il a raison, puisque c'est vrai que c'est pas ce que je connais le mieux. Mais on va l'appeler, Éric, et puis il va nous dire d'abord le programme.
Je pense qu'il a été surpris comme nous que vous ne sachiez pas qu'on avalait la fumée.
Je pose toujours les questions les plus simples du monde. J'y peux rien, je le savais pas, on sait pas tout.
Non, absolument. Moi, je ne sais pas tout non plus d'ailleurs.
Donc, allez, on va l'appeler, tiens, Éric Brunet, et puis comme ça, il nous donnera son programme.
Ce que je sais, c'est qu'il faut faire une pause.
La pause.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
Nous vous attendons au 32-10. Emmanuel Macron commémore les 200 ans de la mort de Napoléon. Le 5 mai 1821, l'empereur meurt à l'âge de 51 ans à Sainte-Hélène, où les Britanniques l'ont envoyé en exil après la défaite de Waterloo. Une gerbe sera déposée cet après-midi au pied du tombeau de Napoléon aux Invalides. Pas suffisant pour Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, était l'invité du grand jury sur RTL dimanche dernier.
Je pense qu'il ne va pas assez loin. Il célèbre Napoléon en catimini. Une petite gerbe déposée, une œuvre d'art qui est un sacrilège au-dessus du tombeau de Napoléon. C'est dû en même temps, comme d'habitude.
Est-ce que tout est à garder chez Napoléon pour vous ?
Faisons attention à ne pas regarder l'histoire avec nos yeux d'aujourd'hui.
Sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Sylvie tient à le rappeler, Napoléon est un personnage important de notre histoire. C'est même un pilier, rajoute Marie. Tout ce qui nous a laissé est notre fierté. Et pour Auria, cette commémoration est scandaleuse. N'oubliez pas qu'il a rétabli l'esclavage en 1802. Un chef de guerre qui a mis l'Europe à feu et à sang. Mais vive l'empereur ! Conclut Mike sur nos réseaux sociaux.
Et je voudrais qu'on parle évidemment beaucoup de Napoléon tout à l'heure. On finit le chapitre, évidemment, pétard, si j'ose dire, et joint et cannabis. Et Éric Brunet est avec nous, il m'a envoyé un petit texto. Éric, qu'on peut écouter tous les soirs chez Thomas Soto, Le Monde tel qu'il est. Et puis chaque dimanche, à 13h, Où va la France, avec un succès grandissant. Bonjour Éric.
Salut Pascal.
Et pourquoi vous dites que je suis pas bon sur le sujet du pétard ?
Non, mais là franchement, Pascal, vous ignoriez qu'on aspirait la fumée du pétard.
L'aspirer, non, mais qu'on avalait la fumée, je me doute bien qu'on aspire le pétard, mais je savais pas qu'on avalait la fumée, je peux pas vous dire autre chose.
Vous n'avez jamais fumé un pétard,
Pascal ? Jamais de ma vie. J'ai 56 ans, je n'ai jamais fumé un pétard de ma vie.
J'ai 56 ans, j'ai dû en fumer deux ou trois à l'adolescence pour me rendre compte que ça m'allait pas tellement, que bref, ça me faisait tourner la tête, j'étais dans un état épouvantable, mais oui, c'est l'inhalation de la fumée qui provoque cet état apaisant, qui n'a pas du tout été apaisant pour moi d'ailleurs.
Je me demande ce qu'aurait pu vous apaiser, parce que pour vous avoir croisé à cet âge-là, parfois ouais. dans les rues de Nantes, cher ouais. Eric, vous étiez un jeune garçon turbulent sans doute.
Oui, sans aucun doute. En revanche, quand j'ai quitté Nantes, comme vous Pascal, et que je me suis retrouvé à Paris dans le tumulte du début de la carrière, j'ai travaillé dans l'entourage de d'Ardisson, et il y avait des garçons qui m'ont, des copains, des collègues, qui m'ont proposé de la cocaïne. Donc à 25 ans, j'ai mis le nez dedans, pas longtemps quand même. Mais c'est vrai, pour revenir sur le débat que vous aviez tout à l'heure, qui était passionnant, j'ai succombé à la tentation un peu du provincial, à 25 ans qui débarque à Paris et qui teste ce truc, alors qu'il n'est pas tellement addictif sur le plan métabolique, hein, Pascal, j'étais pas là à dire ma dose de cocaïne. En revanche, le soir, quand on sortait avec deux, trois copains, etc., ou même le samedi, pour tenir longtemps toute la nuit, pour ressentir les émotions pleinement, etc., on avait pris l'habitude de se faire un petit rail, c'était pas très compliqué, il y en avait partout à l'époque, il y en a encore plus aujourd'hui. Hein.
Vous êtes une source d'étonnement pour moi permanent, cher Eric.
Si vous saviez le nombre de gens de qualité, et j'ai la faiblesse de croire même de politiques qui ont pris dans leur vie de la cocaïne, à mon avis, vous seriez étonné. Bon bref, tout ça pour vous dire qu'au bout d'un an, je me suis rendu compte que ça me réussissait pas, et j'ai arrêté ce truc-là. Parfois, des gens qu'on ne soupçonne pas, qui mettent parfois leur nez dans la drogue.
Bah écoutez, merci de ce témoignage et on vous écoutera ce soir. Je ne peux pas non plus parler de l'effet que fait la cocaïne, mais moi je suis plus peureux que vous. En fait, je suis plus sage que vous. Donc,
ouais. Mais surtout, Pascal, ne dites à personne que j'ai pris de la drogue à une période de ma vie, s'il vous plaît.
Vous venez de le dire à l'antenne, cher ami, donc maintenant tout le monde le sait, ça, vous allez porter ça, vous êtes responsable de ce que vous avez dit, mais bon, vous êtes une source d'étonnement pour moi. Bon, merci en tout cas, Éric Brunet. Merci de ce témoignage ce soir. Et puis, où va la France ? On sait déjà le programme de Où va la France dimanche ?
Pas encore, parce que c'est comme dans une poissonnerie. Le produit est frais, donc on le déterminera samedi soir ou dimanche matin.
Bon, écoutez, je ne savais pas. Effectivement, la comparaison, là aussi, m'étonne. Merci, cher Éric. Merci beaucoup.
Au revoir, Pascal.
13h37. Bon, bah, du coup, on va marquer une pause. Mais c'est vrai que la peur, ça existe un peu. Il y a des gens qui sont un peu plus sages. Il y a des gens qui roulent pas très vite. Ils prennent pas de, voilà, ils sont, c'est pas tant des bons élèves d'ailleurs, mais ceux qui sont un peu, ils sont pas excessifs. Voilà. Ils n'ont pas de personnalité excessive. Donc, j'ai l'impression que Greg, vous êtes un peu comme ça aussi.
Vous voulez dire que je n'ai pas de relief, que je suis un peu plat?
Mais non, au contraire. Je trouve que non, au contraire, moi, je me reconnais dans ce type de personnalité. J'ai pas envie de, voilà, je fais pas beaucoup d'excès. Et tant mieux ou tant pis d'ailleurs, parce que c'est très séduisant, les gens qui font des excès. Effectivement, c'est assez séduisant, disons-le. On a l'impression qu'ils vivent pas comme ça à 100 à l'heure, 200 à l'heure. Je pense à des gens comme Gérard Depardieu, ces gens exceptionnels. Donc, ils sont toujours dans l'excès. On marque une pause, on continue le cannabis. Parlons de Napoléon quand même. Parlons de Napoléon. Et puis du Paris Saint-Germain. Parlons du Paris Saint-Germain. On pourrait appeler Philippe Sansfourche, mais paraît-il qu'il est dans une cure de sommeil, là, jusqu'à l'Euro. Il a décidé avec Nicolas Georgerot de... Voilà, ils sont désespérés tous les deux.
Vous aviez un bon pronostic, du coup, non ?
Oui, on va l'appeler.
Parmi tous les pronostics que vous avez fait depuis des semaines.
On va appeler Philippe Sansfourche, rien que pour l'ennuyer. Ça, c'est un bon...
C'est hyper gentil, ça.
Rien que pour l'ennuyer, on l'appelle. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Erwan est policier, il a 50 ans. Bonjour.
Bonjour, monsieur Praud. Bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour à vous. Vous êtes policier, c'est dur, j'imagine, en ce moment.
Un petit peu compliqué.
Ah, écoutez, je vois ça et j'entends cela. Donc, si on peut parfois aider les policiers modestement. Nous tentons de le faire. Faut-il légaliser le cannabis ?
Non, définitivement non, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'est-ce que c'est que cet appel qu'on va envoyer à notre jeunesse ? On va ouvrir des magasins d'État avec la possibilité pour les personnes majeures, j'imagine, de pouvoir venir acheter du cannabis, régulé par l'État, etc. Donc, inutile de vous dire qu'une fois que les majeurs pourront avoir accès à ça, ils vont en distribuer aux mineurs. parce que eux n'iront pas accès. Je suis pas médecin, vous non plus. Moi, j'ai toujours écouté et les médecins, les addictologues et les toxicologues qui assurent qu'un jeune qui prend du cannabis, ça a un impact sur son cerveau, ça a un impact sur ses neurones, ça a un impact sur sa vie sociale, sur sa scolarisation. Il y en a parfois qui s'isolent un petit peu, il y en a qui deviennent un petit peu parano. Donc, rien de bon sur le plan médical, rien de bon sur le plan du message qu'on veut envoyer à la jeunesse. Et enfin, le deuxième point, vous pensez sérieusement que tous les dealers qui gagnent plusieurs milliers d'euros par jour et plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, parce que l'État a décidé d'ouvrir des magasins d'État et donc de légaliser le cannabis, ne vont pas se diversifier et vont s'asseoir sur des milliers et des milliers d'euros d'entrée?
Mais ça veut dire quoi, se diversifier? Parce que tout à l'heure, un policier disait ça. S'ils font pas ça, ils feraient quoi?
Ah ben, par exemple, alors, le cannabis, donc, n'est plus illégal en France, il est vendu dans des magasins d'État, etc. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il va faire, le dealer, avec tous ses points de deal et le trafiquant? Il va continuer, évidemment, à vendre du cannabis pour tous ceux qui ne veulent pas aller dans les magasins d'État, parce qu'il leur vendra une espèce de provenance. Ah bah c'est la meilleure, c'est la marocaine, ah bah non, c'est de l'afghan. Mais surtout, il va se diversifier. Il va faire quoi? Il va faire de la drogue de synthèse. Il va se diriger.
Et vous pensez qu'il y a le même marché pour la drogue de synthèse?
Largement. Parce que
les gens n'ont pas peur quand même un peu.
En plus, pour eux, ce sera beaucoup plus facile, parce que tout ce qui est drogue de synthèse, tout ce qui est méthamphétamine, c'est de la fabrication chimique. Donc vous n'êtes plus dépendant des pays producteurs comme le Maroc ou l'Afghanistan pour attendre les exportations via l'Espagne pour que ça remonte chez vous. Ensuite, ils vont les approcher doucement, ils vont démocratiser le prix de l'héroïne, et pour ceux qui auront peur de l'héroïne et des effets de l'héroïne, parce que l'héroïne, tout le monde en a peur, parce que il faut s'injecter. Non, l'héroïne, il ne faut pas que s'injecter. L'héroïne, ça se sniffe aussi. Ça se sniffe, l'héroïne. Ils vont démocratiser le prix de l'héroïne.
Et vous pensez que les gens, je répète ma question, n'ont pas peur, parce que le cannabis, ils peuvent considérer que les effets sont
ils vont se diversifier,
pas définitifs, mais ce dont vous parlez, héroïne, cocaïne...
À la place du cannabis, ils vont leur vendre de la beuh, ils vont leur vendre de l'herbe, ils vont de meilleure qualité, ils vont leur vendre des drogues de synthèse, ok? Et ils vont leur vendre, ils vont démocratiser, ils vont faire baisser les prix pour les accrocher sur la cocaïne. Ce qui fait que les jeunes, ils viendront le vendredi soir pour prendre une charge de cocaïne et une pour le samedi soir. Ce qui fait que du vendredi 21h au lundi matin, 7h du matin, ils auront les yeux grands ouverts, ils seront à 11 pour faire la fête, pour aller en soirée, etc. Comment on peut envoyer un tel signe à la jeunesse? Ils prennent le nombre de trafiquants qu'il y a en France, ils les prennent pour des imbéciles. Vous croyez que les trafiquants vont s'asseoir sur des centaines de milliers d'euros? Non, ils vont se diversifier.
Oui, mais écoutez, je vous écoute parce que vous êtes un professionnel.
Dernière chose, on parle la semaine dernière de cette pauvre Madame Halimi avec une excuse pour l'auteur de son homicide qui est reconnu non coupable parce qu'il était sous l'effet du cannabis et certainement parce que c'est un gros consommateur. Et là, d'un seul coup, on dirait « bon ben, on pourra le vendre, vous pourrez en consommer librement ». Et donc on sera excusé de tout. Sur un accident de la route, on sera positif au cannabis, c'est pas de sa faute qu'il était sous cannabis. Sur une mauvaise bagarre, un mauvais coup, sur un homicide. Non mais qu'est-ce que c'est? C'est vraiment pas un signe à envoyer à la jeunesse actuellement.
Voilà. Bon, merci beaucoup Erwan. Merci de ce témoignage. Vous êtes policier, vous êtes dans Paris. On va terminer avec Jean et après on parlera, c'est promis, ou du Paris Saint-Germain ou de Napoléon. Jean, qui est chef d'entreprise. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, Jean. Vous êtes un ancien trafiquant ?
Oui, c'est ça, oui, c'est exact. Oui.
Et vous avez fait plus de 6 ans de prison ?
Oui, tout à fait, oui, dans les années 80.
Et aujourd'hui, vous êtes un repenti ?
Non, pas du tout.
Ah bon ?
Non, je ne suis pas un repenti.
Je fais attention quand même à la conversation qu'on va avoir ensemble, parce que je dois être vigilant sur ce que vous allez dire.
Voilà, tout à fait, ouais. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé que la députée, là, c'est pour ça que j'ai appelé, qui a ouvert le débat, je trouvais qu'elle s'est très bien exprimée. Moi, j'ai quand même un certain âge, donc c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui s'exprime aussi bien sur le sujet. Donc, en s'agissant donc, en effet, de légaliser avec comme objectif de faire diminuer la consommation au niveau national, parce que moi, je fais pas du tout de prosélytisme par rapport à ça. Et que par contre, le policier qu'on vient d'entendre, ce ne sont que des lieux communs. Tout ça, c'est éculé, en fait. Et aujourd'hui, on voit bien que ce qu'il faut faire, c'est de la prévention. C'est bien entendu éviter que les mineurs consomment du hashish, mais il n'y a pas plus de... Je veux dire, c'est un produit qu'on peut mettre en parallèle avec l'alcool, par exemple. Donc,
c'est une forme de repentance, déjà, ce que vous dites là, Jean. Parce que quand je dis vous êtes repenti, vous étiez trafiquant, j'imagine qu'aujourd'hui, vous regardez le parcours que vous avez eu et peut-être culpabilisez-vous d'avoir vendu à des jeunes, notamment.
Non, je vais vous dire pourquoi.
Il y a un point de vue moral, moi je veux pas...
Justement, on peut en parler. Oui. Non, à des jeunes, d'abord je l'étais, et j'étais aussi consommateur, mais je veux dire, quand on produit du cognac ou du vin de Bordeaux, on se pose pas la question du repentir tous les matins.
Non, c'est pas comparable pour les plus jeunes,
si,
par exemple.
C'est comparable.
Faut pas que les mineurs, faire en sorte que les mineurs n'approchent pas le cannabis... On bien peut sûr. Être tous d'accord de dire que c'est une bonne chose.
Bien sûr, c'est même un objectif principal.
C'est
bien
en cela que le trafiquant que vous étiez jadis, sans doute, avait vendu peut-être ou certainement de la drogue à des gens qui étaient mineurs. Et peut-être bien aujourd'hui, sûr. Vous dites-vous que ce n'est pas ce que vous avez fait le mieux dans votre vie.
Tout à fait. Mais si vous voulez, c'est ce que je vous disais, même pour l'alcool. Bon, l'alcool est interdite, la vente est interdite aux mineurs. On peut toujours dire, ils vont dans les supermarchés, aller en chercher. Celui qui produit de la bière, il n'est pas là en train de se culpabiliser. Est-ce que sa bière va être vendue à des mineurs? Bon, elle est parfaite pour ça. Moi, quand je vais ramener du hashish, c'était pas pour la vendre à des mineurs. Mais évidemment, c'était pas le débat. Et donc, par contre,
Vous pensez qu'il faut légaliser. C'est pour ça que vous nous avez appelé. Vous pensez que c'est mieux.
Exactement. Voilà, pour justement.
Il y aurait plus de trafiquants.
Il y aurait moins de trafiquants. Mmh. Et puisque ce serait produit chez nous, contrôlé de A à Z, comme la députée, je crois, l'a exprimé tout à l'heure. Voilà. Et l'objectif, c'est moins faire de la prévention que les policiers, plutôt que d'utiliser leur énergie et l'argent du contribuable à aller poursuivre des jeunes et briser des vies, s'occupe plutôt de faire de la prévention pour des mineurs, de façon à ce que l'objectif, c'est moins de consommation en France. On a la législation la plus répressive d'Europe. En France, trafic, c'est 20 ans, ça peut être multiplié par 2, ça fait donc 40 ans, plus la contrainte par douane de 2 ans de par douane, on peut être condamné à 42 ans de prison en France, aujourd'hui à l'instant T, pour trafic de hashish. Donc on ne me dise pas que c'est pas assez sanctionné. Et donc ça ne va pas.
Eh bien merci Jean. Voilà. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci Greg, car Denis veut ajouter un mot.
Vous savez ce qu'on peut prendre dans son lit pour se détendre, qui fait rire et qui est tout à fait légal?
Je pense à certaines choses, mais je ne le dirai pas.
Non, je parle du livre du nouveau livre de Laurent Ruquier qu'on offre à tous les auditeurs qui passent sur l'antenne aujourd'hui.
Ah, bien sûr, mais il va venir nous voir en plus, Laurent.
Vous croyez ?
Je crois que c'est prévu qu'il vienne nous voir dans les auditeurs, comme on avait fait avec Laurent Gérard.
Vous pouvez nous en dire plus, Isabelle ?
À l'occasion de la sortie aujourd'hui du livre de Laurent Ruquier, Finement con, édité par Flammarion, en partenariat avec RTL, tous les auditeurs qui interviendront à l'antenne recevront son livre. Un savoureux recueil de ses meilleures trouvailles, à la fois drôlatiques et révérencieuse. Face à la crise sanitaire, l'humoriste, comme Beaumarchais, a choisi d'en rire plutôt que d'en pleurer.
Il est 13h49, on va parler de Napoléon dans une seconde. Napoléon l'a paillonné, parce que lorsqu'il est allé à Brienne, c'était son surnom, on ne comprenait pas ce qu'il disait, on lui disait comment vous appelez, il disait Napoléon, donc les gens ont traduit ça la paille au nez, on s'est beaucoup moqué de lui à l'école de Brienne. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
Vous pouvez nous appeler au 3210 sur la lutte contre le cyberharcèlement. La justice doit-elle confisquer le portable des adolescents harceleurs? C'est la méthode employée par le procureur de la République d'Amiens. La justice a récemment confisqué le téléphone d'un collégien amiennois de 13 ans. Il avait proféré des menaces à caractère homophobe sur les réseaux sociaux à l'encontre d'un autre ado, ainsi que des menaces de mort. Écoutez Alexandre de Beauchère, le procureur d'Amiens, interrogé par Cindy Hubert.
Ce qu'on cherche d'abord, c'est d'empêcher que l'infraction puisse être commise de nouveau. Et puis ensuite, c'est de rappeler qu'il n'y a pas de droit acquis à disposer
disposer d'un objet qu'on a utilisé à mauvais escient. On le fait aussi pour des véhicules qui sont utilisés pour commettre des vols. Là, on a un impact direct. Ce bien, vous l'aviez, vous ne l'avez plus parce que vous en avez fait un usage qui est interdit par la loi.
Est-ce à la justice de confisquer le portable d'un adolescent ? Pas forcément pour Justine Atlan, la présidente de l'association e-enfance. C'était l'invité de RTL ce matin avec Yves Calvi.
Est-ce qu'effectivement, c'est la bonne personne qui doit le faire à un adolescent de 13 ans ? Donc, est-ce qu'effectivement, c'est à la justice de prendre ces mesures ? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres acteurs adultes chargés d'éducation de cet enfant, en l'occurrence, qui aurait pu le faire avant. Je pense à poser la question du rôle des parents et puis bien du rôle sûr. De l'établissement scolaire.
Pour Mijo, il faudrait apprendre aux parents leur rôle. C'est leur responsabilité, s'énerve Marie sur nos réseaux sociaux. Certains ont démissionné, soupir d'homme maintenant. On attend que les punitions viennent des professeurs et des juges, que l'on s'en prenne aux allocs, demande Jean-Luc. Et vous verrez le changement. Thierry, lui, en est persuadé, confisquer un téléphone. Ok, mais l'adolescent en prendra un autre. Il faut de vraies réponses judiciaires. Alors, est-ce une mesure gadget, de la poudre aux yeux ? 3210, 3210, dès maintenant sur votre téléphone.
Et nous parlons donc de Napoléon avec un professeur d'histoire. Pierre, faut-il commémorer ou célébrer ? J'ai regardé la différence tout à l'heure entre commémorer et célébrer dans le dictionnaire. En fait, c'est les mêmes mots. Hein. C'est... Il n'y a pas de différence, si vous me permettez. Pierre ?
Oui, Pascal, bonjour.
Commémorer, c'est rappeler par une cérémonie le souvenir et célébrer, c'est marquer un événement par une cérémonie. Donc vous voyez, on est sur, il y a la différence d'un trait entre commémorer et célébrer. Et tout le monde parle de commémorer et célébrer comme si c'était deux mots différents. C'est les mêmes.
Ben en fait, dans la célébration, il y a une cérémonie, si vous voulez. Donc c'est ostentatoire. Dans la commémoration, on n'est pas forcément dans l'ostentatoire. Alors sur le fond, c'est la même chose. Mais en fait, il y a cette différence qui est là-dessus, quoi. Alors moi, je trouve que la commémoration, elle est intéressante. Parce que Napoléon, c'est un personnage qu'on essaye de gommer de l'histoire. Aujourd'hui, dans l'enseignement, on veut faire une histoire politiquement correcte. Et forcément, Napoléon, c'est un personnage qui va poser problème. Parce qu'il a toute cette... il a des facettes... moi, que je résume à trois facettes importantes. C'est un homme d'État tout à fait exceptionnel. Ça a été un réformateur hors pair. Et puis, ça a été un dictateur et un oppresseur des peuples européens absolument phénoménal. Et on n'aime pas ça dans une démocratie. Et alors, surtout en France, c'est le genre de personnage qui gêne. Et il ne peut pas faire consensus. Et du coup, on l'a gommé des programmes d'histoire. Là, par exemple, en lycée, il est enseigné au début de l'année de première. Et si on y passe une heure, c'est vraiment un maximum. Et je ne suis pas sûr qu'en gommant des personnages comme ça, on fasse du bien, finalement. Et moi, je suis même étonné de voir le premier, pourtant c'est mon boulot de parler d'histoire, à quel point on est en train de revoir un petit peu aujourd'hui le regard qu'on porte sur le personnage. Je suis surpris d'une quantité de livres qui sortent sur justement le côté réformateur, homme d'État, grand personnage, etc. Et je crois que si jamais on n'enseigne pas ces personnages-là, si jamais même on les commémore pas, parce que moi je trouve que l'intérêt de la commémoration, c'est justement de creuser le sujet, c'est de peut-être passer à côté de choses qui sont parlantes aujourd'hui. Napoléon, c'est quelqu'un qui a été hyper populaire. Il a été aimé des Français.
Et qu'il l'est toujours.
Au début.
Qu'il l'est,
et
toujours.
Qu'il l'est toujours.
C'est ça.
Il a réglé plein de problèmes. Et, oui. Et ça résonne aujourd'hui dans un contexte de crise où on a des tas d'hommes politiques ou de femmes politiques qui disent qu'ils vont régler les problèmes. On peut comprendre une certaine forme de popularité qui peut venir par rapport à tout ça. Alors après, il faut voir le prix qu'il faut payer politiquement.
Non, mais moi, ce qui me frappe, c'est... comme souvent d'ailleurs, c'est que d'un côté, il y a le public qui adore Napoléon, qui est fan de Napoléon. Et puis de l'autre, il y a la petite classe médiatique qui est contaminée par des minorités actives qui veulent réduire Napoléon à l'esclavagisme.
Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Mais le public, dès que vous faites une émission sur Napoléon, dès que vous faites un film sur Napoléon, il est célébré dans le monde entier. En fait, les gens sont plutôt fans de Napoléon. C'est ça la vérité. C'est en plus notre histoire de France.
Ouais, ouais. Et en plus, il suffit de voir le succès qu'a l'exposition qui est prévue à la Villette sur Napoléon.
Bien
je
sûr.
Crois qu'il y a une quantité de billets qui est phénoménale, qui a été vendue déjà.
Bien sûr. Mais vous moi, dites que vous, cette, êtes pro, vous cette... intervenez dans quelle classe?
Alors, je suis en lycée, donc j'interviens sur des secondes, des premières et des terminales.
Et vous dites que c'est une heure simplement de temps en temps?
Ah, mais c'est quelqu'un qui est gommé complètement de l'histoire. C'est-à-dire que là, le chapitre qu'on doit faire, c'est un chapitre qui s'appelle « La Révolution et l'Empire, la naissance d'une nouvelle nation ». Donc vous voyez qu'en fait, la particularité de Napoléon, là-dedans, elle est complètement gommée.
Alors qu'il y a 30 ans ou 40 ans, on apprenait Napoléon, j'ai envie de dire, par le menu. Le congrès de Vienne, les batailles, la chute, la prise de pouvoir, le début de son apogée, tout cela était extrêmement appris.
Tout à fait, c'était dans les programmes, on a le même âge Pascal, hein, donc j'ai fait la même scolarité que vous, et c'était le programme de seconde, et le programme de seconde c'était la Révolution et l'Empire, et on passait 2-3 mois sur l'Empire, effectivement. Maintenant, plus rien.
Le consulat, voilà ce qu'on apprenait aussi fortement. Bah, écoutez, merci Pierre, parlons de Napoléon, est-ce que vous aimez Napoléon, est-ce que vous trouvez les polémiques nulles et non avenues? Et dans une seconde, ce sera Olivier Bois. C'est à 17h que le président de la République va parler. Et je le répète, ce n'est pas lui qui va... Vous voyez, comme tout est détail, hein, et les détails sont symboliques, ce n'est pas lui qui portera la gerbe et qui la déposera au pied du tombeau. Ça sera un jeune de Saint-Cyr, puisque le président de la République ne se prosterne pas devant un empereur. À tout de suite.
Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Olivier Bois. Olivier Bois, parce qu'il est 14h et c'est le flash.
Oui, à l'issue du Conseil des ministres de ce matin, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, parle d'une nette amélioration de la situation sanitaire, une baisse des cas de 20% sur une semaine. Tous les départements sont à ce jour sous la barre des 400 cas pour 100 000 habitants, ce qui est le seuil retenu pour commencer le déconfinement comme prévu le 19 mai. 5500 personnes pour autant sont toujours soignées dans les services de réanimation. Le maire de Toulon, Hubert Falco, quitte les Républicains. Il dénonce un rétrécissement de la ligne du parti. Il juge irresponsable de condamner l'accord en PACA où LREM a décidé de soutenir Renaud Muselier, ce qui fait selon lui le jeu du Front National. En politique toujours, une source gouvernementale confirme que des discussions sont engagées au sein de la majorité du gouvernement pour que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, remplace Laurent Pietraszewski comme tête de liste La République En Marche pour les régionales dans les Hauts-de-France. Le journaliste français Olivier Dubois affirme être otage au Mali d'un groupe islamiste affilié à Al-Qaïda. Dans une courte vidéo, il dit avoir été enlevé le 8 avril dernier à Gao. Il appelle à l'aide sa famille et les autorités françaises. Chelsea accueille ce soir le Real Madrid. Deuxième demi-finale retour de la Ligue des Champions, c'est à 21h. Les deux équipes ont fait match nul un partout la semaine dernière. Le vainqueur affrontera Manchester City en finale qui a éliminé hier soir le PSG. Une victoire 2-0. Le temps de demain matin, de la pluie sur une grande partie du pays, sauf du Pays Basque à la Méditerranée où ce sera un beau soleil entre Perpignan et Nice. Un peu ensoleillé également du côté de la Bretagne. Il fera 6 à 11 degrés demain matin sur le nord, 13 à 16 degrés dans le sud. Et le quintet pour finir à l'instant, l'arrivée provisoire à Fontainebleau. L'As, photo finish entre le 2 et le 8, le 9 et le 5. On vous donne l'arrivée définitive tout à l'heure à 15h, Pascal.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Et nous parlons de Napoléon ensemble et de cette commémoration aujourd'hui, il y a 200 ans, sur l'île de Sainte-Hélène. C'était nié l'empereur, c'était le 5 mai 1821 à Longwood. Des suites d'une longue maladie. Est-ce que c'est un cancer de l'estomac? C'est la thèse qui est privilégiée. Nous sommes avec William, bonjour, qui a 19
bonjour,
ans et qui habite le Pas-de-Calais. Napoléon, pour vous, c'est quoi?
Bah alors déjà, moi, quand j'écoute votre émission et on parle de Napoléon, tout de suite, ça m'a interpellé. Il faut savoir que je suis un jeune passionné d'histoire et s'il y a deux personnes, quand j'ai appris l'histoire de France qui m'ont marqué, c'est Charles de Gaulle et Napoléon Ier. Je pense que c'est un personnage qui est tellement emblématique aujourd'hui dans la mémoire collective des Français, et ça c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais lui enlever, et ce n'est pas arrivé par hasard. C'est pour ça que moi je trouve que c'est extrêmement regrettable de ne pas commémorer ou célébrer, comme vous disiez tout à l'heure, peu importe le mot utilisé, ce personnage grandissime, grandiose de l'histoire française, malgré effectivement... J'entends les arguments qui portent sur l'esclavagisme, mais je pense qu'il y a aussi des arguments dans l'autre sens. Regardez le Code civil de 1804, par exemple, qui a permis à de nombreux Français et paysans de l'époque de renforcer leur liberté individuelle. Ça, on en parle très peu aujourd'hui.
Oui, j'entends bien. Mais qu'est-ce que ça évoque pour lui? Vous dites, vous dites c'est un personnage grandissime. Au fond, pour vous, Napoléon, c'est quoi les signes distinctifs?
Les signes distinctifs de Napoléon aujourd'hui, c'est quand même l'esprit de conquête, l'esprit de liberté et l'esprit de puissance à travers lui-même, mais aussi à travers le royaume de France, l'Empire. Mmh. Et c'est vraiment cette dimension-là qui a marqué le personnage et qui, quand on demande aux Français aujourd'hui qu'est-ce que c'est Napoléon, c'est ça, c'est la conquête, c'est la puissance. C'est la notion d'un État ou d'un empire, en l'occurrence, de toute puissance. Et c'est ça qui...
Et ça, vous avez la nostalgie. C'est d'autant plus étonnant que vous n'avez que 19 ans.
Oui, oui. J'ai eu la chance d'avoir de très bons profs d'histoire, très jeunes, passionnés. Aujourd'hui, je suis devenu passionné d'histoire. D'ailleurs, on parlait de commémoration. Je suis un des très rares jeunes à organiser les enterrements, les cérémonies pour les anciens combattants de mon secteur. Et je trouve ça vraiment très dommageable qu'aujourd'hui, la jeunesse française se désintéresse ou a perdu un contact avec l'histoire de France.
Merci beaucoup, William. La ligne n'est pas à 100% parfaite, donc on va essayer, comme on dit dans ces cas-là, de la sécuriser. Mais Hubert est là. Alors Hubert, il est un peu plus vieux que vous. Il habite en Touraine. C'est le maréchal Touraine, mais c'est, la Touraine, c'est une région. Est-ce que pour vous, Napoléon est le plus grand des Français, Hubert ?
C'est un très grand Français. Alors, merci de prendre mon appel, Pascal. Je ne reviendrai pas sur ses conquêtes militaires et son ascension et sa chute, mais je voudrais juste faire une petite parenthèse sur sa réussite de la médecine traumatique, à savoir Dominique Larrey. Napoléon Ier a été le premier à organiser, à relever les blessés sur le champ de bataille avec ses ambulances. Ça a été le premier chef militaire à s'en organiser. Et ça, on lui doit une reconnaissance éternelle parce que la médecine traumatique européenne française était la meilleure à l'époque. C'est ceux qui n'ont pas oublié les blessés. Après, les blessés et les invalides ont été accueillis aux Invalides, notamment à l'hôtel des Invalides qu'avait fait Louis XIV, mais il a pris un soin tout particulier pour qu'ils soient bien traités, bien accompagnés, et les sans-famille étaient accompagnés jusqu'à la fin de leur vie. Et ça, on lui doit une reconnaissance éternelle, parce qu'elle existe toujours aujourd'hui, et elle est transmise. C'est ce que je... Oui.
Non, mais je vous écoute avec intérêt. Et pour vous, c'est le symbole de quoi, Napoléon ?
C'est le symbole, alors je vais en choquer plus d'un, d'une réussite militaire, mais d'une forme de pacification. L'Europe était très divisée. L'Autriche-Hongrie avait un désir de conquête. La Russie des tsars était très hégémonique, elle était inorganisée, elle provoquait les conflits, et Napoléon a voulu un peu pacifier à sa façon l'Europe. Il n'a pas réussi parce que peut-être que son ego a été un peu trop fort, ça lui est monté à la tête, comme on dirait maintenant. Mais il a quand même réussi, après j'entendais l'auditeur précédent, le code civil a beaucoup progressé, il a ouvert des droits, une organisation, une centralisation aussi, mais qui était une réussite pour la France, qui a permis à la France de progresser et de faire face à nos amis anglais, à l'entente cordiale qui est venue par la suite.
Écoutez, merci Hubert de ce témoignage. On va marquer une nouvelle pause. Vous êtes très nombreux à nous appeler, forcément. C'est un jour particulier. C'est un jour particulier également pour tous les Corses. Et je pense qu'ils nous écoutent aujourd'hui à un double titre, puisque le 5 mai, c'est hélas aussi la commémoration de la tragédie de Furiani. C'était le 5 mai 1992. Et RTL fut... touché, puisque parmi les victimes, il y avait un jeune journaliste qui s'appelait Jean-Baptiste Dumas, qui ne se relèvera finalement jamais de ce qui s'est passé ce soir-là à Furiani. Et puis il y avait également Hervé Béroux, qui a longtemps été dans cette maison, et puis aujourd'hui qui est parti sous d'autres cieux et qui était dans la tribune de presse de Furiani. Et puis tellement d'amis, parfois qui sont morts, parfois qui sont décédés. On pense à cette minute-là, à tous ceux qui sont décédés, à tous ceux qui... ont été blessés à Furiani il y a 29 ans. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes avec Laurent. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs.
Et merci, vous vouliez nous parler de Napoléon.
Bah, écoutez, moi je le bénis tous les jours.
Pourquoi ça?
Parce que je suis restaurateur d'objets anciens. Donc votre thème était est-ce que la cérémonie est appropriée ou pas. L'homme est discutable. L'homme est discutable, donc comme tout homme discutable, toute cérémonie lui afférent est discutable. Mais moi, je le bénis tous les jours. J'ai, au niveau artistique, il a initié plein de choses. Mais le problème, c'est que c'était avec l'argent de l'Europe entière, par exemple. C'est avec l'argent pris en Italie, c'est avec l'argent pris en Allemagne, c'est avec l'argent prélevé, enfin de ce qu'on devait lui, la dîme que ces États, tous ces États devaient lui verser pour la protection qu'il leur procurait. Mais au niveau artistique, il y a un développement extraordinaire de l'artisanat français. Et moi, je vous dis, je le bénis tous les jours. Donc moi, j'ai pas besoin d'une cérémonie.
Qu'est-ce qui aujourd'hui, pour le restaurateur que vous êtes, a le plus de valeur sur le marché? Qu'est-ce qu'on demande le plus en objet?
C'est
à des prix abordables, bien sûr, parce que j'ai vu, il y a par exemple la tabatière de Napoléon, c'était Monsieur Chalençon qui présentait cela aujourd'hui sur une chaîne d'information, elle coûte 300 000 euros la tabatière qu'il avait à Sainte-Hélène.
Oui, mais vous avez également le sabre qu'il avait à Marengo qui a été vendu plusieurs millions d'euros.
Plusieurs millions d'euros?
Bien entendu, oui, on était à 2,2 millions ou 2,3 millions. Enfin,
c'est fou, alors que la tabatière, elle fait 5 cm de long.
Oui, mais elle est proposée à ce prix-là, mais elle fera certainement davantage si elle était proposée en enchères. Moi, j'ai eu un courrier d'un client texan qui, à la fin de son courrier, signait « Vive l'Empereur ».
Oui, il y a des...
C'est vous dire les fanatiques qu'il peut y avoir dans ce ouais. milieu-là.
Et puis alors, des gens, effectivement, extrêmement fortunés. Alors aujourd'hui, il y a une vente aux enchères, j'ai vu, avec une chemise de Napoléon qui pourrait partir à 60 ou 80 000 euros.
Elle fera plus.
Ah oui? Il faut vraiment, alors, j'allais dire, il faut vraiment.
Si elle lui a réellement appartenu, si vous avez réellement.
Mais comment on sait qu'elle a appartenu à une chemise?
Vous avez des tableaux.
Des tableaux sur une chemise? Écoutez, moi, je me méfierais. Franchement, vous savez, j'ai vu. Il y a parfois une sorte d'escroquerie dans ces marchés-là. Hein,
évidemment. Quand vous avez une demande et que l'offre n'est pas en face, enfin, vous savez comment marche le.
Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous avez vendu de plus cher, par exemple?
Ah, mais moi, je ne vends pas, moi, je restaure.
Vous restaurez, voilà. Mais alors, qu'est-ce que vous avez restauré de plus cher?
Qu'est-ce que je pourrais avoir dans ce goût-là? J'ai régulièrement des épées d'officiers généraux, par exemple, de l'époque, où il manque des plaquettes en nacre.
Et ça vaut cher une...
Ah, ça, on atteint les 3-4 000 euros, facile.
D'accord. Et alors, vous restaurez également les habits, par exemple, ou de grognards ou de militaires?
Des broderies, des choses comme ça, oui, de temps en temps. De temps en temps. Mais le problème, c'est que le tissu de ces époques-là se conserve très mal.
Oui, les tissus, j'imagine. C'est des tissus qui ont plus de 2 siècles, donc...
Voilà, et toutes les petites bêtes, ça a plus ou moins été stocké. À certaines époques, c'était caché dans les familles également, puisque ce n'était pas de bon ton vis-à-vis du nouveau régime de s'afficher avec ce genre de choses qui vous reliaient au régime passé. Donc, sous Louis XVIII, ces gens-là se cachent. Vous avez les demi-soldes. Vous avez vu, comme moi, des vieilles séries, genre...
Bien sûr,
etc.
Bien sûr.
Il n'était pas de bon ton de s'afficher avec les couleurs politiques du régime précédent.
Bien
C'était
sûr.
L'ogre.
Et le mot demi-solde, d'ailleurs, il est passé dans le langage courant, oui, il est un peu péjoratif. Merci Laurent. Je voulais vous faire écouter. Vous connaissez La vie amoureuse de Napoléon?
Oui, j'ai vu ça. Oui, mais
il a été marié deux fois, Joséphine, bien sûr, et Marie-Louise d'Autriche, puisque Joséphine ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais il y a aussi
Là encore, c'était discutable, puisque l'une ne lui procurait pas d'enfant, et le second mariage était un mariage de raison.
Oui, mais il y a eu aussi des maîtresses, et il y a eu notamment Marie Valeska, Marie la Polonaise, dont il a eu un enfant. Et Lama avait fait une superbe chanson évoquant Marie la Polonaise. Écoutez. Elle est morte très jeune, Marie Valeska. Elle avait 31 ans. Elle est morte après avoir accouché à Paris, d'ailleurs. Elle était, c'était après la mort de Napoléon. Non, c'était avant la mort de Napoléon. D'ailleurs, c'était en 1817.
Mort, oui.
Ouais, c'était en 1817, mais évidemment, elle s'était éloignée de lui. Elle avait eu un enfant de lui, Alexandre Valeska. En l'occurrence, Alexandre Valeski. Laurent, merci. Vraiment, merci beaucoup. On est avec Philippe, peut-être, ou on marque une nouvelle pause, Greg Caranoni.
Il faut marquer une petite pause.
Ça vous passionne, Napoléon ?
C'est très intéressant, oui. Oui, je trouve ça très intéressant.
Eh bien, ça tombe bien, figurez-vous, parce qu'on en parle.
Je n'allais pas dire le contraire.
Mais vous savez que c'est un prénom, Napoléon ?
Non.
Ah bah c'est Bonaparte, c'est le nom, et Napoléon.
Ah oui, d'accord. Non, mais c'est pas un prénom qu'on donne.
Ah bah c'est un prénom, vous pouvez.
Vous
par
connaissez
exemple,
des Napoléons ?
Ben justement, j'en connais pas parce que c'est un peu marqué quand même. Mais par exemple, si vous le souhaitiez, peut-être qu'un jour le petit Pio aura un frère et vous avez le droit de l'appeler Napoléon Caranoni.
C'est vrai.
Alors, c'est
mais
peut-être handicapé au début de sa vie. Ouais. Parce que en classe, Napoléon Caranoni, présent. Ça marche.
Vous croyez que ce sera à cause de Napoléon de Caranoni ?
Bah, il a le boulard. Vous avez le
un
boulard
peu,
en
oui,
plus.
Un peu.
Vous avez le boulard. Il est 14h16, la pub.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et c'est Philippe qui est avec nous, qui habite Reims, là où on sacrait les rois jadis. Bonjour Philippe.
Bonjour Pascal, enchanté.
Alors vous êtes passionné par Napoléon, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que déjà pour moi c'est un héros et puis c'est une histoire de famille. J'ai la chance d'avoir eu dans ma famille trois générations de personnes qui ont eu la Légion d'honneur. Mon père qui a été aussi président départemental lors de la Légion d'honneur, qui a été officier supérieur, qui a travaillé à l'état-major à Paris. Et c'est une personne qui ne peut pas laisser indifférente. Alors il ne faut pas... recontextualiser son histoire. Il ne faut pas la juger au jour d'aujourd'hui. La situation n'est pas la même. On ne peut pas aujourd'hui dire que Napoléon est un tyran seulement. C'est un gars qui a fait la guerre parce que c'était une situation qui sortait d'une révolution très tourmentée. Il y en a certains qui disent sauver la révolution, d'autres qui disent qu'il l'a tué. C'est un personnage ambigu, mais c'est un personnage passionnant. Qui a laissé des traces dans notre histoire de France et dans ce qui se passe aujourd'hui, quand on a parlé, j'ai entendu, sur le code civil, sur plein d'autres choses. La mise en place de la Légion d'honneur en 1802, qui permet aussi à ces grognards d'avoir une récompense, c'est-à-dire un petit système de retraite, de rente. Mmh. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a tout un héritage matériel et immatériel. On regarde tout
ce qui on en parle des préfets, de la cour, le code civil, la cour de cassation.
Aujourd'hui, le code Napoléon régit encore beaucoup de choses en France. Mmh. Et qu'est-ce qu'on ferait sur ces grands hommes d'histoire ? J'ai entendu quelqu'un qui a parlé de 10 ans, qui était ces deux grands hommes d'histoire, étaient Charles de Gaulle et Napoléon. Je suis tout à fait d'accord, et j'en ai 52. Napoléon, de Gaulle, et je rajouterai Louis XIV, et je rajouterai Charlemagne et Clovis. Voilà, si on prend ces personnages-là, et on oublie des gars comme Louis XI aussi, qui ont été des grands rois, il y a plein de choses qui sont passées. Il ne faut pas, dans l'histoire, juger que les choses négatives qu'on regarde avec notre regard d'aujourd'hui.
C'est ça qui est compliqué, c'est toujours c'est ce qu'on dit en permanence, c'est prendre des lunettes de 2021. Par exemple, quand j'entends dire Napoléon est machiste ou il est sexiste, j'ai envie de dire...
Qu'est-ce que c'était à cette époque-là ?
C'est toute la société qui l'était, c'est ça la vérité, elle était incroyablement machiste et sexiste la société, bien sûr, mais Napoléon sans doute ne l'était pas plus que un autre. C'est le procès d'une société. On peut regarder avec cela, avec le recul, et dire oui, c'est une société qui permettait pas aux femmes d'être émancipées, qui ne leur permettait pas. Vous savez par exemple que il y a pas de reine de France, hein, je le rappelle, c'est la loi salique, ce qui n'était pas vrai en Angleterre. C'est-à-dire que celui qui régnait, c'était celui qui régnait, c'était non seulement l'aîné, mais encore fallait-il qu'il soit un homme, un garçon.
Le moment où il y avait une dame qui régnait, c'est quand il y avait une régence.
Oui, il y avait effectivement, quand c'était la mère
La régence. Ouais, et on a eu des grandes régentes, des régentes qui étaient encore plus dures que les hommes.
Mais elles n'avaient pas accès au trône.
Quand on regarde Marie de Médicis ou des personnes comme ça, ont été beaucoup plus dures que certains rois.
Donc la société, évidemment, était très, très différente. Qu'est-ce que vous retenez s'il fallait, pour vous, ne retenir qu'une chose de Napoléon ?
Moi, c'est un stratège hors norme. Il suffit de regarder la reconstitution ou l'histoire de Austerlitz. Moi, j'ai été à Slavkov, parce que ça s'appelle Slavkov à Austerlitz, à côté de Bordeaux, en Bohême. Et quand on voit le plateau de Bratzen, et qu'on regarde ça, et qu'on voit le château où était Kutuzov en face, et Napoléon a dit « Demain soir, je dors là-haut », et il a fait des manœuvres militaires
Mon père, qui était officier, qui était passionné de stratégie, me disait toujours que dans l'armée, il y avait des stratèges énormes. Napoléon fait partie. Et un autre, de la de Tassigny. Voilà. Ce sont ce qu'on appelle des stratèges. Et Napoléon avait cette qualité et cette vision avant-gardiste dans ses batailles, dans sa façon d'appréhender, dans sa communication avec le peintre David. Quand il est à Arcole, tout le monde sait qu'il n'est pas passé en premier sur Arcole. Tout le monde le sait dans l'histoire qu'il n'est pas passé dans les premiers avec le sabre sur le pont d'Arcole.
Mais non, il est même passé à dos de mulet, alors qu'il y a une photo, quoi. Une photo.
Ça, c'est quand il a passé les montagnes. Ouais, un tableau. Quand il passe les montagnes, il passe sur un mulet. Dans
exactement.
Et il y a un tableau qui est magnifique, où on le met avec un éclat, mais ça, c'est de la communication.
Bien sûr.
C'était un communicant.
Avec et un cheval cabré.
C'était un communicant qui, aujourd'hui, lui, avait des choses derrière. Et si on fait un parallèle avec la politique d'aujourd'hui, alors je ne vais pas dire d'aujourd'hui parce qu'on va dire qu'on va attaquer Macron, mais on va dire de la politique générale des 20 ou 30 dernières années. On est dans des communicants où il y a beaucoup de formes, mais le fond n'existe pas. Chez Napoléon, il y a du fond. Le fond, c'est le code civil, c'est toutes les choses qu'il a créées, toutes les choses qu'il a laissées. Qu'est-ce qui va rester de nos personnages historiques aujourd'hui ? Pas grand-chose sur ceux qui sont actuels. Mais on oublie sur certains gens qu'on critique aujourd'hui, on regarde aujourd'hui. On critique Chirac, par exemple. Mais Chirac, qu'est-ce qu'il a créé ? Il a créé le Pôle emploi. Tous ceux qui sont dans les situations difficiles aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont ? Le Pôle emploi, qui l'a créé ?
Avant le Pôle emploi, il y avait la NPE. C'est
la
pas
NPE, eh ben, c'est ça qu'il a créé.
Il a créé, vous m'étonnez en disant cela, c'est pas lui qui a créé le chômage pour ceux qui...
Non, c'est lui qui a créé le système pour permettre une indemnisation des gens qui perdent leur emploi.
Mais en quelle année, ça ?
En 75 ou 14.
Ah bon ?
Bah, quand écoutez, il était Premier ministre.
Et avant, il n'y avait pas d'indemnisation pour
regardez,
les chômeurs.
Bah, écoutez, je vous crois. Bien, vous verrez.
Ah ben non, mais alors ça, je vous crois. Je pensais que c'était antérieur à Chirac, pour tout vous dire. Mais,
les accords de Grenelle, toutes ces choses-là, tout ce qui sont sortis, c'était lui qui négociait, qui passait à travers les barricades. Mmh. Donc il faut regarder chaque personne avec sa partie noire, sa partie sombre. Mmh. Si on regarde Mitterrand, qu'on dit que c'était un homme qui était une grande culture...
Mais restons sur Napoléon, peut-être.
Oui, non, alors on va rester sur Napoléon. Mais sur Napoléon, c'est quelqu'un qui a une grande culture. Il avait quand même autour de lui des gars, comme il a eu Napoléon, comme il a eu Talleyrand, quand il disait que c'était un homme, c'était un tissu de mer dans des bassoirs. Il avait des formules qui étaient quand même assez parlantes.
Eh bien, merci en tout cas, Philippe. Merci de...
C'est quelqu'un qui ne peut pas laisser indifférent. Voilà,
ah non, mais ça, c'est...
Aujourd'hui, dans l'éducation nationale, on fait du sectarisme, c'est-à-dire qu'on oublie les personnages des A et on oublie notre histoire. Et n'oublions pas une chose... c'est que le peuple ne peut grandir et ne peut aller quelque part que s'il sait d'où il vient. Il y avait un facho que tout le monde connaît, Hitler, qui a dit pour détruire un peuple, détruire son histoire. Si on détruit notre histoire...
Si on pouvait ne pas citer Hitler dans notre émission, ça m'arrangerait.
J'ai dit que c'était un salopard.
Oui, voilà. Je suis d'accord, mais bon.
Je suis bien clair. Mais voilà,
je préfère qu'on parle de Napoléon. Bon, voilà, merci en tout cas, Philippe.
L'histoire est importante. Savoir d'où on vient pour savoir où on veut aller.
Eh bien, nous, on sait d'où on vient. On vient de 13h et on sait où on va. À 14h, on va au débrief.
Je voulais juste te dire une toute petite chose, Pascal Praud.
Oui.
C'est que par rapport au PSG et Chelsea hier, je suis un grand amateur de sport. Mais hier, la grande victoire qu'il y a eu, c'est une grande victoire de Chelsea, une grande victoire d'un gars qui s'appelle Pep Guardiola.
C'était City.
Mais Pep Guardiola, c'est aussi un gars qui a dans
c'est
ses
un
bras,
stratège.
Et avec lui, un stratège, un gars qui s'appelle Manuel Estiarte, qui est le meilleur joueur de waterpolo du monde et qui est son ami depuis 2008.
Eh bien, merci Philippe, parce qu'il faut qu'on fasse le débrief. Il est 14h25. Le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
L'histoire éternelle.
C'est le sujet le plus traité dans l'histoire des auditeurs à la parole et celui, une nouvelle fois, qui vous a animé au standard.
C'est une question qui traverse les années. Faut-il légaliser le cannabis ?
Jérémy, 46 ans, nous a contacté au 3210. Il fume des joints depuis 30 ans. La légalisation irait pour lui dans le bon sens.
S'il y avait des points de vente légaux vendus par l'État, les gamins auraient peut-être moins de relations avec les drogues dures.
Et pour parler du cannabis, petite musique d'ambiance, s'il vous plaît, Greg Caranoni.
Je peux mettre un peu de Bob Marley pour être cliché.
Ah ben.
Je sais que vous aimez les clichés.
Ah ben, c'est gentil.
C'est pas mauvais d'aimer les clichés, hein. J'adore les clichés.
Et l'ambiance change d'un coup dans le studio. On vous sent ailleurs, Pascal.
On a prolongé la conversation avec Jérémy parce que ce qu'il nous dit est passionnant. Bonjour, Jérémy. Bonjour, pas bonjour.
Ça va, Pascal ?
La légalisation du cannabis, qu'en pense Véronique ?
Les jeunes, quand vous leur dites qu'il y a un produit qu'il ne faut pas consommer, ils vont se précipiter dessus dès qu'ils vont commencer à arriver à l'âge de 15-16 ans parce qu'on va dans la transgression. Si vous leur vendez que le cannabis, c'est comme les haricots verts, c'est très bon et qu'il faut en consommer, vous allez voir que dans quelques temps, ils ne vont plus vouloir en consommer.
Mais Pascal, vous avez suscité un bon nombre de réactions après ces propos.
Et l'autre chose que je voulais vous poser comme question, on n'avale pas la fumée ?
Ah si, bien sûr, absolument.
Donc là, on l'avale. Ah oui, c'est plus nocif alors.
Ah bah, il n'y a aucun intérêt de fumer un pétard si vous n'avalez pas la fumée, j'ai envie de vous dire.
Et même Éric Brunet a bondi sur son téléphone, il ne pouvait pas laisser passer ça.
Non, non, mais là franchement, Pascal, vous ignoriez qu'on aspirait la fumée du pétard.
Non. Oui. Un dernier mot, Eric ?
Et surtout, Pascal, ne dites à personne que j'ai pris de la drogue à une période de ma vie.
Ouais, ouais, ouais. Non, non.
Nous ne dirons rien. Et puis, une pensée à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est fini. Élimination en demi-finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Chanson désormais intégrée à leur playlist et qui, chaque année, les supporters se disent une nouvelle fois : nous ne gagnerons pas la Ligue des Champions. Et si vous cherchez un peu de réconfort, le docteur Pro est là pour vous.
Les supporters du PSG sont déçus, mais en même temps, c'est dans leur gène.
Vous avez quelque chose à rajouter, docteur ?
Ça doit être dur quand même d'être supporter du Paris Saint-Germain après autant d'échecs et après autant d'années.
Ah, Greg Caradoni me dit que nous avons rajouté une chanson dans la playlist des supporters du PSG et leur histoire avec la Ligue des Champions.
Ça fait mal de vivre sans.
Ouais, bah on imagine, mais mesdames, messieurs, ce 5 mai est une date importante, oui, un historique de la mise en rouge.
Le 5 mai, c'est effectivement la mort de Napoléon, certes, mais c'est surtout l'anniversaire de Christian Olivier. Quand même, donc faut lui rappeler le chef,
le
chef historique du service des sports, mais je ne dirai pas son âge.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Christian, après la levée du couvre-feu, on s'invite tous chez vous.
On va se régaler, je vous l'assure.
Il va être content, Christian, mais on l'adore. RTL est lié à lui et il est lié à Christian. Madame Flavie Flamand arrive à l'instant dans le studio.
Pascal Pro, les auditeurs.